Un petit bidon, mon pépère.
Christopher, vous roulez mieux. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça.
Aïe, 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 attention, Philippe, vous nous faites rappeler. Allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand.
Chapeau, chapeau, chapeau.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. Le Tour de France s'est terminé il y a quelques jours, ça défile très vite, on est même plus dans le Tour de France, on est même plus dans les championnats du monde qui ont eu lieu dimanche dernier. On a déjà la tête tournée vers le Tour d'Italie qui va partir samedi, avec un petit peu un entre-deux dans les Ardennaises, avec la Flèche Wallonne qui a eu lieu ce mercredi et Liège-Bastogne-Liège-Ladoyenne qui aura lieu dimanche. On va donc aborder dans ce podcast un petit peu l'ensemble de ces sujets, présenter le Tour d'Italie, les favoris, le parcours, voir à quoi on va pouvoir s'attendre sur la course italienne, la grande course italienne. Et pour parler de cela, aujourd'hui je suis avec Geoffrey. Salut Geoffrey.
Salut.
Et on est également avec Anselme. Salut Anselme.
Bonsoir tout le monde.
Et bien voilà donc. Au programme, Tour d'Italie, Ardennaise, un petit point sur les Mondiaux évidemment, on n'oublie pas Julien Alaphilippe après sa magnifique victoire. Enfin, un titre de champion du monde français, 23 ans après Laurent Brochard. Vous savez tout, attention au départ, chasse patate, c'est parti! Pour commencer donc le Tour d'Italie, avant de rentrer dans le vif du sujet, les favoris, les coureurs qui peuvent remporter... le Tour d'Italie est succédé à Richard Carapaz, qui n'est pas au départ de la course italienne. Anselme, je ferai un petit avis déjà sur le parcours. On a souvent l'habitude de dire que le Tour d'Italie est assez montagneux. C'est le cas cette année à nouveau ?
Pour moi, le parcours était très sympa avant qu'il y ait réajustement post-Covid. Et il y a un déséquilibre qui est venu avec les étapes hongroises qui ont été remplacées par les étapes siciliennes. Et l'ajout de difficultés fictives sans raison qui viennent surcharger un petit peu le parcours à mon sens. Maintenant, après, la météo va peut-être rééquilibrer ça en faisant sauter quelques cols en deuxième et en troisième semaine. On n'est pas à l'abri de voir un parcours encore montagneux, mais à mon sens, il y a trop d'arrivées en montée. C'est un peu surchargé en ce sens-là.
Anselme, tu partages le même avis, un parcours toujours un petit peu trop déséquilibré, surtout après le grand départ qui revient en Italie, en Sicile, alors qu'il était prévu en Hongrie, à Budapest au départ.
Bah là, on se retrouve, en termes d'équilibrage, pour moi, on se retrouve un peu sur un Giro qu'on avait eu en 2011, qui était à l'époque jugé beaucoup trop montagneux. Donc là, c'est vrai qu'on doit avoir 9 étapes de montagne, je crois, de haute montagne. Si je dis pas de bêtises. Et le truc, c'est que si on avait 9 étapes de montagne et à côté des étapes propices aux sprinteurs, on pourrait trouver un équilibre. Mais là où on va dire le déséquilibre se crée, c'est dans les étapes de moyenne montagne ou de type puncher, qui sont elles aussi en grand nombre. Et on se retrouve avec 3 étapes classées pleines, puisqu'en plus de ça, il y a 3 chronos. Donc là, on a un parcours, je ne sais pas s'il est trop montagneux. La météo va peut-être le rendre moins montagneux, comme l'a dit Geoffrey. Mais je ne sais pas trop, en fait. Sur le papier, il fait envie. On peut se dire qu'il y aura du spectacle. Mais j'ai peur que, comme sur le Tour, il y ait beaucoup de premières étapes de montagne qui soient escamotées.
Et en plus, avec quasiment toutes les étapes de montagne qui sont à la fin, en fin de parcours, avec des grandes arrivées à Madonna di Campiglio, au Stelvio, à Sestriere, parmi les 5 dernières étapes. Donc un gros programme pour finir qui peut un petit peu également pousser à l'attentisme des coureurs, des grimpeurs.
Après, c'est une habitude sur le Giro d'avoir une dernière semaine très lourde. Les choses qui embêtent, pour moi, c'est plus la construction de la première partie. La Hongrie, ça nous proposait un départ. Moi, j'appelle ça les départs à la Kittel, quoi, comme il y avait eu en Irlande du Nord et à droite à gauche où il y avait un chrono et puis 2 étapes plates qui étaient systématiquement gagnées par Marcel Kittel. Et les sprints sont pas à la mode parce que, soi-disant, on s'ennuie, il se passe rien avant les 4 derniers kilomètres. Et là, à l'arrivée, on se tape Agrigento et l'Etna, où il va rien se passer avant la flamme rouge aussi, mais c'est les punchers qui vont se jouer l'étape, à une autre, ce sera les grimpeurs.
Surtout que sur l'Etna, on peut se retrouver un scénario à la Polanque avec un mec tout seul devant et les favoris qui font rien. Parfois, il y a même plus de suspense sur des étapes comme ça qu'au sprint. Donc, enfin, je veux dire, il y a plus de suspense sur les étapes de sprint que sur des étapes comme ça. Donc, c'est des étapes pas forcément. Là, les trois premières étapes de montagne, celle qui arrive à Villafranco, c'est à moins qu'un sprinter qui passe bien les bosses gère. Ça peut être profil pour les baroudeurs. Et pareil, l'étape de Camigliatello, ça ressemble quand même au profil qu'on a eu sur le Tour de France avec la victoire de Lutsenko. Et vu leur positionnement, c'est peu probable qu'on voit déjà de la bagarre chez les favoris. Donc, pour moi, c'est peut-être la construction de l'étape, enfin de la course qui est pas bonne.
En tout cas, après, pour finir un petit peu sur ce parcours du Giro, il y a un point qui était assez critiqué sur le parcours du Tour de France, c'est la présence de contre-la-montre. Il y a à peu près un peu plus de 60 km de contre-la-montre en trois étapes. Là, c'est un petit peu un point positif pour finir.
C'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est paradoxal avec le parcours, c'est qu'il y a trois contre-la-montre, ça fait plus de 60 bornes en cumulé, et on trouve quand même que c'est un parcours qui est trop orienté montagne. Donc ça reste révélateur, parce que oui, il y a trois chronos, mais c'est pas un prologue, un petit chrono scalata et puis un long chrono comme le Giro l'a proposé parfois, quoi. Il y en a un de 15 bornes en ouverture, dont une descente. Il y en a un de 30 bornes au milieu. Et il y en a un de 15 bornes à l'arrivée. Le chrono de 15 bornes vers Milan, sauf s'il y a deux coureurs qui se tiennent en 10 ou 20 secondes, il va servir à rien. Et puis ça sera une victoire à la Chadaga ou un truc comme ça, une étape relativement oubliable.
Bon alors, à présent, après avoir décortiqué un petit peu le parcours, un parcours montagneux et qui ne laisse pas beaucoup d'espace aux sprinters, on y reviendra après, qui peut remporter ce Tour d'Italie? Qui peut remporter ce Giro 2019? Anselme, toi pour commencer, qui est ton favori pour ce Tour d'Italie?
Pour moi, c'est pas forcément un type, mais c'est l'équipe Astana qui est la mieux armée avec Fuglsang, Vlasov et Lopez selon comment il a récupéré du Tour de France. Mais c'est une équipe qui a sur le papier qui est assez forte avec Oscar Rodriguez derrière qui a déjà fait de belles performances sur la Vuelta, notamment en battant Maika sur une étape. Et pour moi, ils ont la possibilité de dynamiter la course. On sait que la start list est plus faible que sur le Tour de France, que les équipes qui sont présentes, elles auront moins de la capacité de contrôler la course, que de fait, c'est beaucoup plus propice une course de mouvement. Et les trois leaders qui sont tous, enfin, Lopez et Fuglsang, qui sont, même si Fuglsang, parfois il y a des réserves sur sa capacité à trois semaines, mais qui sont des top coureurs, et Vlasov qui fait un début de saison assez incroyable et qui confirme tout le bien qu'on pouvait penser de lui. Je pense que c'est une équipe qui a toutes les cartes en main pour jouer la gagne. Et faut juste pas qu'ils soient trop attentistes. Mais s'ils se donnent les moyens, ils ont de grandes chances de pouvoir remporter ce Tour d'Italie.
Geoffrey, toi de ton côté, qui est ton favori pour ce Giro?
Moi, je pencherais vers Geraint Thomas. Bonne forme à la sortie de Milan-Sanremo, pareil sur les championnats du monde. Il y a quand même une belle équipe autour, hein. les équipiers habituels à la Castroviro. Il y a Juan Denis à voir ce qu'il va faire, à quel point il pourra aider en montagne. J'attends de bonnes choses aussi de Filippo Ganna, c'est son premier Giro, et son premier grand tour même, à voir comment il va tenir trois semaines, mais il commençait à montrer quelques petites choses en montagne. Là, il est en forme excellente. On l'a vu à quel point il a dominé les championnats du monde, parce que les écarts n'étaient pas énormes, mais le parcours n'était pas grand. Hein. Il met quand même près d'une seconde au kilomètre à Wout van Aert. Les championnats du monde du contre-la-montre, même si on prend les coureurs qui sont au départ, les trois mieux classés, c'est Ganna, Thomas et Denis. C'est une équipe qui va être un peu revancharde après le Tour de France, où l'équipe était attendue comme une semi-armada. Avec Jumbo-Visma, ça devait se jouer entre les deux. Au final, leur seul fait d'armes, ça a été de gagner une étape en Baraki avec Kwiatkowski devant Carapaz, et encore, ça s'est retrouvé à prendre cette forme-là juste parce qu'il y a Hirschi qui est tombé dans une descente. À mon avis, ils vont avoir envie de se rattraper parce que ça reste une équipe de grand tour et ils ne doivent pas être vraiment satisfaits de leur Tour de France.
Alors, Astana d'un côté, Ineos Grenadier de l'autre, est-ce que ça sera pas un peu les deux grosses formations qui vont captiver un peu la course?
Je pense aussi avoir les Jumbo Visma parce qu'eux aussi vont avoir besoin de se rattraper. Il y a un Kreuzai qu'on ne sait pas quoi en attendre. Il y a le petit Tolouk qui sera là à côté. Ça reste quand même pas mal que l'équipe qu'ils alignent.
Bah après, enfin, je pense que c'est surtout les équipes qui ont une grosse formation autour de leur leader, parce qu'à côté de ça, il y a d'autres équipes qui ont des coureurs. Moi, je pense à la Mitchelton de Simon Yates ou à la Trek de Nibali, mais c'est plus des équipes que je vois jouer les coups. Dans le sens où enfin, leur leader va jouer le général, c'est sûr, mais là où il pourrait peser sur la course, c'est en tentant des coups, en plaçant des pions dans des échappées, un peu à la Léopard quand Dischlek part dans le galibier, avoir des relais plus loin. C'est pas des équipes que je vois, hormis s'ils prennent le meilleur leader très tôt, contrôler ou faire exploser le peloton. Parce que si à la Trek, il y a des gars comme Ciccone qui sont sur le papier costaud, on sait que c'est plutôt un baroudeur grimpeur, et je vois plus être un appui devant que dans un rôle type Castroviejo à imprimer un gros tempo. Donc je pense qu'on aura, comme sur le tour, deux hypothétiques Armada. Après, on voit que dans les faits, ça peut être totalement différent.
Il n'y aura pas forcément les mêmes moyens que sur le tour pour diriger la course, en tout cas, ça, peut-être un petit peu l'évidence. Hein.
Bah, c'est sûr.
Le Armada était relatif, mais Anselme, tu parlais de prendre la tête très tôt. Une équipe comme Ineos, on a vu sur le Tour de France par le passé, ça ne les dérange pas de prendre la tête relativement tôt et à la limite d'écraser la course relativement tôt pour décourager les précédents, les adversaires. Geraint Thomas, s'il se retrouve à être dans les tout premiers dès le contre-la-montre de Palerme, à mon avis, c'est une équipe que ça dérangera pas de rouler et d'avaler les kilomètres sur le plat et de rouler en tête de peloton et d'essayer d'écraser dès le début pour décourager quelques adversaires.
Ce que j'aimerais voir, c'est ce que va faire Juan Dennis, parce que il est là pour aider Thomas, c'est sûr, mais on a déjà vu dans ses précédentes équipes que c'était pas forcément le coureur qui parfois n'en faisait qu'à sa tête, et faut voir s'il sera capable de mettre toutes ses ambitions de côté pour aider son leader. Parce que derrière, si Castroviejo et Gauguin Hart sont des valeurs sûres, Narvaez, il était très bon sur la semaine lombarde. Puccio et Ghana, si sur le plat ça fait le travail, en montagne ce sera très léger. Donc,
une montée comme l'Etna qui est encore plus régulière que le col du Lautaret, tu le mets en tête de peloton et il peut enchaîner les kilomètres.
Oui, non, c'est sûr. Surtout que je pense pas que ça montera très vite. On devrait trouver je pense qu'on trouvera une vingtaine de coureurs au sommet.
En tout cas, sinon,
j'espère me tromper.
En tout cas, sinon, à propos d'Ineos, c'est une équipe qui a eu un peu de mal quand même ces dernières années sur le Giro. Est-ce que cette année, ça peut être enfin la bonne année pour réussir sur le Tour d'Italie, ou est-ce que c'est pas une équipe qui est faite pour le Giro?
Il y a Froome qui l'a gagné quand même.
Froome dans des... Oui, en effet. En dehors de Froome, ça reste compliqué.
Bah ouais, je sais pas si Thomas a... Même s'il a gagné le Tour de France, et en remportant des étapes de grimpeur, j'arrive toujours pas à le voir comme un top grimpeur, et... C'est peut-être... Peut-être que mon cerveau ne veut pas l'accepter, hein. Mais je ne le vois pas lâcher à la pédale les gars, surtout sur les cols italiens.
Mais moi non plus. Hein. Mais ça n'empêche pas que j'en fais quand même mon favori.
Non, après, oui, il peut gagner, mais...
Un Miguel André Lopez que tu citais comme favori potentiel, effectivement, il peut perdre. Geraint Thomas va s'accrocher autant qu'il peut, monter au train, il va perdre 15 secondes par-ci, 30 secondes par-là. Et il y a un chrono de 30 bornes au milieu, il va lui mettre 2 minutes et ça rattrapera tout ça.
Ouais, après, je suis pas sûr que... Enfin, Lopez, je sais pas dans quelle forme il arrive. Moi, je pense plus à Fuglsang. Pour moi, c'est le grand tour ou jamais pour remporter ou déjà faire un podium sur un grand tour. Et pour moi, il aura...
Ça fait combien de fois que c'est le grand tour ou jamais pour Fuglsang?
Non, mais dans le sens où là, la start list est abordable, le Giro est assez montagneux. On a vu sur les mondiaux qu'il était quand même en forme, puisqu'il est là dans le final. Donc, si c'est vrai, évidemment, il y a eu des Tours de France où on a dit que c'était le grand tour ou jamais. Là, je pense que, je ne vais pas dire dernière chance, parce qu'on a vu ces dernières années que l'âge n'est pas forcément un problème. On a eu Valverde qui a refait podium la Vuelta, porte sur le tour. Donc, il a peut-être encore des années devant lui. Mais s'il veut, je pense que c'est sa chance de gagner un grand tour. Je suis pas sûr qu'il retrouve une position avec, sur le papier, l'une des équipes les plus fortes, si ce n'est la plus forte, et une concurrence aussi peu relevée en termes de nombre de prétendants à la victoire. Donc,
Comme une grosse cote Fuglsang. Tu parles de l'année ou jamais pour qu'il le gagne. On parle d'un mec qui a pas dû faire top 10 dans un grand tour depuis bah, peut-être le tour 2013.
ouais, mais
Tout à fait.
on a bien Caruso qui a fait un top 10 sur le tour. Il n'avait pas fait de top 10 sur un grand tour depuis
Non.
2014.
Mais
Donc,
Caruso, je le mets pas favori pour la victoire.
bah, mais c'est pas le même type de coureur.
Non, mais.
On a Porte qui a fait troisième du Tour de France alors qu'il n'avait jamais fait mieux qu'un top 5 sur le Tour de France. Et sinon, à chaque fois, il se ramassait. Donc.
Ouais, mais Porte, je l'aurais mis comme candidat éventuel au podium. Fuglsang sur le podium, pourquoi pas? Mais vainqueur, ça me paraît quand même
Bah pour moi,
compliqué.
entre le podium et le vainqueur sur ce Giro, ce sera l'écart est pas si grand. Pour moi, en fait, c'est la faible start list ouvre un champ assez important de possibilités.
En tout cas, on a donc vos deux principaux favoris, Jakob Fuglsang d'un côté et Geraint Thomas de l'autre. Si on regarde la principale course de préparation avant ce Giro, qui est Tirreno-Adriatico, Thomas a pris la deuxième place et Fuglsang a fini 14e. Au final, est-ce que Geraint Thomas n'a pas été un peu plus rassurant que le Danois en vue du Giro?
Si on part sur Tirreno, celui qui était le plus rassurant, c'est Simon Yates quand même, qui sur l'étape de montagne fait une sacrée démonstration. Mais oui, sur le principe, Thomas a fait un très bon Tirreno, là où Fuglsang a été plus en retrait. Mais moi, je pars de l'Astana, et sur Tirreno, c'est Vlasov qui avait le leadership de l'équipe kazakh. Donc, on peut dire que je pense pas que Fuglsang doive s'inquiéter. Après tout, deux fois il a gagné le Dauphiné en étant transparent sur le tour. Donc peut-être qu'en ayant du mal, en étant plus en retrait sur Tirreno, il sera en meilleure forme sur le Giro. Donc on fait tout le temps ces comparaisons de la course de préparation, mais on sait bien que c'est jamais vraiment la même chose une fois arrivé sur le grand tour. Donc je me prononcerai pas plus que ça. Enfin, j'attends avec impatience le Giro.
Geoffrey?
Même chose, la course de préparation, c'est un petit indicateur, mais je veux dire, on a vu Dani Felipe Martinez gagner Dauphiné, et il n'a pas été vraiment un grand impact sur le classement général du Tour de France. Donc, pour ça que voilà, je veux dire, c'est Simon Yates qui a gagné Tirreno, c'est lui qui était le plus fort à Tirreno, et aucun de nous deux l'a cité comme favori pour la gagne. Et après Thomas, j'aurais plutôt tendance à citer des. Nibali, éventuellement Kreuzweig, même si on ne sait pas du tout la forme dans laquelle il est, que même Simon Yates. Simon Yates, je vois peut-être dans les candidats au podium,
Pas
mais
pour la
je ne vois
victoire, ça
pas.
semble trop haut pour lui.
Ah, moi je suis pas
Je ne
d'accord.
sais pas, j'ai peut-être trop en tête l'immense défaillance qu'il avait eue il y a quelques années. Thibaut pinotise peut-être un peu trop les capacités de Simon Yates sur le fait de rester dans la gaine jusqu'au bout.
Ah, mais il a quand même gagné une Vuelta après, donc
Ouais.
on
Ouais, enfin
sent.
les Vueltas, ça fait 300 bornes de moins, c'est pas les mêmes étapes de montagne non plus.
Ouais, mais ça reste une course de 3 semaines. Moi, enfin, je pense que Yates peut jouer la gagne jusqu'au bout et être dans le coup jusque dans les toutes dernières étapes de montagne.
Et sinon, vous avez parlé également de Vincenzo Nibali qui se fait toujours discret sur les courses de préparation. C'est une habitude maintenant pour le requin de Messine. Est-ce qu'il n'a pas sa chance lui aussi de remporter à nouveau le Tour d'Italie?
Carrément. Ça ne me surprendrait pas qu'il écrase la course et qu'il gagne le Giro avec 5 minutes d'avance. comme ça ne me surprendrait pas qu'il se retrouve à être défaillant et qu'il finisse 8e. Je sais pas quoi, je sais plus quoi en attendre de Nibali. En fait, il est tellement capable de tout que
tout peut arriver.
Dans le bon sens comme dans le mauvais, je veux dire, des moments où on l'attend pas, il se retrouve à briller. Des moments où on l'attend et on le voit jamais.
Non, mais qui gagne avec 5 minutes d'avance, ce serait quand même une surprise.
Non, parce que t'as des étapes qui se retrouvent à être, qui peuvent être très piégeuses. Il y en a où il y a plusieurs, où il y a des murs, où il y a moyen de bouger de loin. On va quand même être en octobre. Si ça se court avec une météo un peu dégueulasse, c'est pas ça qui va le perturber, Vincenzo Nibali. Et il peut flinguer la course sur une étape où on n'entend pas, comme le Tour de France quand il le gagne. Bah, il y avait une startlist relativement faible. Et il fait un petit exploit sur l'étape des pavés où on ne l'attendait pas à voir largement au-dessus des autres. C'est un coureur qui sait aussi briller sur les classiques, qui sait prendre des risques de loin. Il y a des étapes intermédiaires où il peut aller faire des trucs.
Et sinon, donc, vous avez parlé donc de Jakob Fuglsang, de Geraint Thomas, de Vincenzo Nibali un petit peu. Et si on devait faire la liste des coureurs qui peuvent remporter le Tour d'Italie, on a qui? On a Fuglsang, on a Thomas, on a Nibali, on a peut-être Simon Yates. Est-ce qu'on a d'autres noms à ajouter à cette liste?
Kreuzweig, peut-être, je sais pas.
Bah, y a un Vlasov qui s'est montré très fort. Le problème, c'est qu'il n'a jamais fait de grand tour. Des gars qui ont gagné sur leur premier grand tour, Pogacar a fait deux et premier de ses deux premiers grands tours, donc c'est possible. Enfin, trois de la Vuelta. Mais donc, en fait, Vlasov, je ne peux pas le mettre dans les favoris dans le sens où c'est trop une inconnue. Mais s'il a le niveau sur trois semaines de ce qu'il a montré au début de saison, alors c'est un favori à la victoire.
Peut-être en gros un package Astana autour de Jakob Fuglsang.
Ouais, bah moi c'est ce que je mettrais.
Qui pourrait sourire à Vlasov, à Miguel Angel López, s'il a suffisamment bien récupéré du Tour de France, ce qui va pas être forcément évident non plus. Après, si on regarde un petit peu dans les autres coureurs, après c'est vrai que, comme vous l'avez dit, la start list elle est un petit peu plus faible, un petit peu plus pauvre que les années précédentes. On tombe après à des Wilco Kelderman ou des Rafał Majka, des Patrick Konrad. Ça semble un peu trop juste pour viser la victoire.
Ouais, bah je pense qu'on a beaucoup de coureurs après derrière qui seront là pour jouer le top 10. Éventuellement un top 5, parce que peut y avoir des chutes, des abandons, des défaillances, c'est un grand tour. Et il va y avoir une palanquée de... En plus, c'est un parcours montagneux, donc les baroudeurs grimpeurs type Fausto Masnada, Carl Friedrich Hagen, qui avait fait top 10 de la Vuelta. Tout ça, c'est des gars qui peuvent aller chercher un top 10 sur échappée ou sur des coups en montagne. Et pour moi, hormis en fait ce package de coureurs qui peut jouer la victoire, derrière, ça va être hyper ouvert et on pourrait se retrouver avec des surprises autour de la 5e place. Et le fond de top 10, c'est tellement...
Il y a de la place pour des surprises dans le top 10.
Il y a de la place pour
tout
le monde. Ouais, bah ouais. Donc,
Geoffrey, t'es du même avis, 3-4 coureurs qui peuvent viser la victoire et après ça reste complètement ouvert.
C'est ça, et le top 10, on peut se retrouver à avoir plein de coureurs. C'est vrai, ça peut être une année où quand on va re-regarder au classement dans 7 ou 8 ans, on va dire, il y a ce gars-là qui a fait un top 10 du Giro. Non, c'est pas possible. Je veux dire, il y a quelques éditions où il y a des mecs comme ça qui se retrouvent à briller et je pense qu'on peut avoir un fond de top 10 un peu surprenant. Effectivement, il y a quelques gros candidats à la place dans le top 10 comme Pozzo Vivo, mais on peut avoir quelques surprises. Ouais.
Donc les favoris, si on devrait résumer une liste de coureurs pouvant gagner le Tour d'Italie, on aurait Fuglsang avec un petit package Astana avec López, Vlasov, on aurait Geraint Thomas, Vincenzo Nibali et également, pourquoi pas, Simon Yates, peut-être Steven Kreuzweig, même s'il n'a pas couru depuis le Critérium du Dauphiné. Donc ouais, une liste qui s'arrêterait à 3, 4, 5 noms. Du côté des sprinteurs, on a pas mal de coureurs qui peuvent s'imposer. On a des Fernando Gaviria, des Arnaud Demar, Peter Sagan, Elia Viviani, Alvaro Hodge, Rudy Barbier. Mais au final, comme on l'a dit précédemment en décryptant un petit peu le parcours, assez peu d'étapes qui peuvent leur convenir. Est-ce qu'ils auront suffisamment de matière pour s'exprimer?
Non.
Non.
Bah, un type comme Sagan aura matière à s'exprimer. D'ailleurs, Sagan est pour moi probablement le favori au Cyclamen. Mais en même temps, vu le parcours, et si comme en 2018, les favoris se jouent régulièrement la victoire, on pourrait pourquoi pas avoir des surprises sur le maillot de Cyclamen, parce que pour moi, les sprinteurs, hormis ces trois étapes de plat, qui on peut être à peu près sûr, vont être totalement verrouillées par leurs équipes, le reste, c'est tellement indécis. Pour démarrer, c'est pas forcément la bonne année pour tout miser sur le Giro,
Ça
au vu du
dépend
parcours.
s'il a encore les jambes qu'il avait cet été ou au Tour de Wallonie, il s'est limité la casse face à des punchers comme Gilbert, Van Avermaet, où il est distancé dans la côte à 3-4 bornes de l'arrivée par des mecs qui ont ce standing-là pour revenir derrière et les amener au sprint, il pourrait tenir quelques côtes. Mais pendant que tu discutais, je regardais, je faisais le listing effectivement des étapes qui sont vraiment plates et qui s'orientent vraiment a priori pour les sprinteurs. Il y a celle de Brindisi, il y a celle de Rimini, et il y a celle qui est dans l'antépénultième étape, pardon, et qui fait 250 bornes à la sortie de deux étapes de montagne. Donc là, c'est pas dit qu'il y a une équipe de sprinteurs qui va se dire, allez les gars, pendant 7 heures on se met en tête de peloton et puis on verrouille. Donc ça aurait pu. Enfin, quand les parcours ont été annoncés, il y avait les deux étapes plates en Hongrie. Et ça faisait un peu dans l'idée, coucou les sprinteurs, le Tour de France n'est pas pour vous, venez vous aligner au Giro. Là, malheureusement.
On a donc quelques étapes toutes plates qui sont bien traditionnelles du Giro. Est-ce qu'on pourrait justement y voir Arnaud Démare lever les bras, gagner à nouveau sur le Giro?
Il a l'équipe pour, en tout cas.
Il a l'équipe et la forme pour, mais le sprint c'est quand même tellement aléatoire et les chances sont tellement maigres. Je veux dire, il va sûrement en gagner une. Au mieux, je pense qu'il peut en gagner deux.
Il
Mais
y en a quelques-unes qui sont sur un terrain, je trouve, qui peuvent l'avantager pas mal. Je ne sais plus c'est laquelle. Il y a quelques côtes un peu en amont qui peuvent faire éventuellement un tri, mais lui, la capacité pour passer. Et ça se termine avec une ligne droite de plus d'un kilomètre. Et ça, c'est le genre de terrain qu'il apprécie vraiment. Donc il a vraiment de quoi en gagner plusieurs.
Et après donc, on a parlé donc d'Arnaud Démare qui peut peut-être remporter une victoire d'étape au sprint. Si on se base uniquement sur les niveaux des sprinteurs, sur les sprints massifs, qui pourrait être, est-ce qu'il y a un grand favori entre ces différents sprinteurs ou est-ce que ça reste assez homogène, des niveaux de forme un petit peu en question?
Le niveau de forme, c'est assez particulier, puisque sur les qualités intrinsèques, on aura envie de dire que Viviani, si on regarde au pédigré, il est censé être au-dessus, mais il ne l'a pas montré cette année. Il y a des mecs qui ont un punch et qui sont capables d'être très rapides et qui ont des équipes pour emmener dans le final, comme Alvaro Hodge. La De Kooning saurait l'amener, mais est-ce qu'il aura des bonnes jambes là? On ne sait pas trop. Arnaud Démare, il avait un pic de forme époustouflant à la fin de l'été, là. La course va se dérouler. La plupart des étapes pour sprinter seront mi-octobre. Peter Sagan monte des choses, mais il a du mal à conclure. Michael Matthews, pareil, on ne sait pas. Et on est un peu comme pour les grimpeurs, quoi. Il y en a plein qui peuvent potentiellement faire des trucs. On a plein de petits sprinteurs, entre guillemets, qui vont venir faire des top 10 un peu partout. Mais c'est compliqué de faire un pronostic clair.
Moi, j'avais oublié Matthews tout à l'heure. Enfin, je me rappelais pas qu'il était sur la start list. Gagner au sprint, je pense pas. Par contre, je pense avec Sagan, ils peuvent se me. Pour le maillot Cyclamen, ça peut être un duel sur ce Giro.
Pour le coup, c'est un parcours qui
Sinon,
lui
en
convient
termes.
bien à Michael Matthews.
Ouais, je pense qu'il a moyen d'aller chercher des étapes.
Une
Pour ce
étape
qui est
comme
des.
celle de Matera avec le final avec des petites côtes et en faux plat montant et tout ça, peuvent s'en sortir. Agrigento, selon comment ça monte, pareil.
Par contre, je pense qu'en termes de sprinter, si on doit dégager aujourd'hui deux favoris, pour moi, il y a Arnaud Démare et Gaviria, qui ont montré dernièrement qu'ils étaient au niveau des tops, qui font partie des top sprinters. Viviani, sur le pédigré, ok, mais sur le Tour de France, qu'est-ce qu'il était en retrait? C'est assez terrible. Et derrière, bah, on sait que la Quick Step, ils sont plutôt bons pour jouer ça et. Hodge, s'il arrive à sortir des gros sprints, peut pourquoi pas gagner. Mais en fait, derrière, c'est tellement. C'est comme l'a dit Geoffrey, les niveaux sont un peu indécis. Un Rudy Barbier peut pourquoi pas aller chercher un podium d'étape ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, ceux à qui on peut s'attendre à ce qu'ils soient là vraiment et répondre sur l'ensemble des sprints qu'il y aura sur le Giro, c'est Demar, Gaviria et éventuellement Hodge parce qu'il a l'équipe pour l'entourer.
Alors justement, en parlant d'équipe, pour finir ce Giro, on va regarder un petit peu nos équipes françaises. Groupama FDJ, on l'a un petit peu développé avec Arnaud Démare, puisque c'est une équipe qui va tout miser sur le sprinter Picard, avec une équipe qui lui est entièrement dédiée. On a ensuite Cofidis, qui a Elia Viviani comme leader, mais qui aligne également des coureurs comme Nicolas Hayden, Nathan Haas ou Jesper Hansen. Et enfin, AG2R La Mondiale, qui se présente avec Tony Galopin, Aurélien Paré-Peintre ou encore Andrea Vendramé. Selon vous, que vont pouvoir faire les équipes françaises?
Les échappées pour AG2R. C'est une équipe qui devrait pouvoir bien animer. Si les circonstances sont favorables, Galopin peut rentrer dans le club des vainqueurs d'étape sur les trois grands tours.
C'est son objectif en tout cas.
Donc, AG2R va être là en chasseur d'étape et on va voir ce qu'ils vont faire. Cofidis, a priori, devrait rouler par moment pour Viviani. Aidé, je suis surpris de le voir sur le Giro. Je m'attendais à ce qu'il fasse la Vuelta comme tous les ans.
Après, il n'a jamais fait le Giro, il va peut-être découvrir. Je pense qu'au niveau équipe française, on peut peut-être un Bouchard qui pourrait pourquoi pas jouer les étapes. Enfin, je le vois bien jouer les étapes, mais pourquoi pas le classement de la montagne,
Oui,
après
lui.
celui de la Vuelta l'année dernière.
Tout à fait.
Et le Finlandais Hänninen, qui fait 20e de Tirreno, 23e, et qui peut pourquoi pas aussi aller chercher une belle victoire d'étape. Vendramé, c'est. Typiquement le profil de coureur dont je parlais tout à l'heure, qui peut jouer les troubles faits dans le final d'une étape. Il avait été très costaud l'année dernière quand Chavez avait remporté son étape. Donc c'est un des coureurs avec qui il faudra faire avec dans les échappées. Les deux autres équipes françaises, elles sont tournées vers le sprint. Donc à partir de là, ça va être plus limité. Chez Cofidis, tout n'est pas misé sur le sprint, donc ils ont quand même des coureurs capables d'aller chercher des victoires en échappée. Pour la FDJ, hormis Kilian Franchini, derrière c'est plus limité et c'est vraiment une équipe typée sprint. Et si Arnaud Démare sera sur ce Giro, j'ai peur que ce soit dur d'exister pour la Groupama.
Alors donc, on a essayé de présenter un petit peu le Tour d'Italie. On va passer à présent aux autres grandes courses qui se déroulent en ce moment, à savoir les classiques ardennaises. On a eu la Flèche Wallonne ce mercredi qui a souri à Marc Hirschi, le Suisse qui remporte sa première classique quelques semaines après avoir remporté sa première victoire chez les professionnels sur le Tour de France. Marc Hirschi qui devance au Mur de Huy Benoît Cosnefroy et Michael Woods, avec une belle quatrième place de Warren Barguil également. Le scénario qui s'est à nouveau quasiment résumé à la montée finale du Mur de Huy, même si on n'avait pas de grands favoris comme ont pu l'être Alejandro Valverde ou Julian Alaphilippe par le passé. Alors, une petite question, est-ce que la Flèche Wallonne est condamnée à se résumer à ce Mur de Huy?
Oui, mais c'est pas gênant. Le Mur de Huy se prête à un vrai beau final pour Puncher. Tous les ans, il y en a quand même des qui tentent. Hein. Nibali a tenté d'enchérir. Aujourd'hui, on a vu Rigoberto Urán attaquer. C'est quand même quelque chose qui arrive pas souvent à part au Grand Prix de Montréal. Donc, il y en a toujours qui vont tenter un petit peu avant parce que, au cas où, on ne sait jamais. Mais sinon, le Mur de Huy, c'est l'endroit qui se prête vraiment à un sprint comme ça. Et j'ai envie de dire d'autant plus que Liège-Bastogne-Liège n'arrive plus à la Côte d'Anse et l'Amstel en haut du Coburg. Donc ça a ce côté-là à part et c'est pas gênant.
Anselme, tu es du même avis, il faut conserver pour toi aussi une course comme la Flèche Wallonne qui est vraiment une course de côte.
Alors moi je suis tout à fait. Enfin, il faut la conserver parce que quand on arrive groupé, pour moi, on a l'un des plus beaux kilomètres en termes de suspense et de tension de l'année. Par contre, est-ce qu'elle est condamnée à être une course de côte? Non. Ces dernières années, c'était notamment dû à la Movistar, puis à la Quick-Step. ce qui risque de revenir quand Alaphilippe reviendra dessus. Mais on a vu cette année, s'ils étaient sortis à plusieurs avec Uran, il y aurait eu peut-être moyen que derrière, ça se regarde plus ou qu'ils aient plus de marge au pied du mur.
Justement, est-ce qu'on n'a pas de grosses attaques avant le mur de 8? On a eu Maximilian Charman, il me semble, l'année dernière. On avait eu Bob Jungels dans les années précédentes, par exemple. Mais c'est des coureurs qui restent souvent un peu isolés dans leurs attaques avant le mur de 8.
Parce que ces attaques, elles se font dans des belles côtes parfois. Hein. Charav, c'est quand même un sacré morceau. Mais il n'y a rien de comparable au mur de 8. Et je pense peut-être que le mur fait un peu peur. Pour moi, une alternative qui pourrait être tentée, enfin, qui pourrait être tentée une fois pour voir peut-être quelque chose de différent, c'est un circuit final plus court, plutôt qu'il fasse 32-35 km, qui se retrouve à faire 18 ou 20, mais qu'on enchaîne le mur de 8 4 fois dans les 50-60 derniers kilomètres. Là, ça peut être qu'il pourrait y avoir une équipe qui veut tout faire péter à 20 bornes de l'arrivée dans l'avant-dernier passage du mur. Et ça débriderait peut-être un petit peu la course, mais sinon voilà quoi, le dernier kilomètre se suffit à lui-même. Il y a une grosse bataille de placement systématiquement qui a son rôle vu la taille du peloton à chaque fois au pied du mur. Sinon Dan Martin aurait déjà gagné la Flèche 4 ou 5 fois.
Mais Dan Martin d'ailleurs qui fait 5e aujourd'hui, ouais. et pour moi c'est une bonne surprise après son Tour de France qu'il avait fait très en retrait. Je le voyais pas performer sur cette Flèche. Et je dois avouer qu'il m'a plutôt surpris, c'est montré au rendez-vous. Et bon, je ne vais pas dire qu'il peut être un des favoris pour Liège-Bastogne-Liège, mais après, sait-on jamais. Hein. On a beaucoup parlé de Cosnefroy qui vient chercher la deuxième place, mais pour moi, Barguil fait une plus belle performance dans le sens où Cosnefroy, on sait que c'est typiquement c'est un spécialiste de ce type d'effort. Là où Barguil, qui est plus un grimpeur, et bon, on dit que Liège-Bastogne-Liège est plus propice aux grimpeurs. Là, pour moi, il m'a surpris et a montré qu'il avait une très belle forme. Et est-ce qu'ils sont alignés sur Liège-Bastogne-Liège? Oui. Barguil peut être un prétendant, s'il y a une course de mouvement, d'autant qu'il a une bonne pointe de vitesse au sprint, peut être un prétendant à une bonne place dimanche.
Alors justement, sur le Liège-Bastogne-Liège qui se court dimanche, avec une arrivée qui sera légèrement différente de l'année dernière, mais qui arrive toujours au centre de Liège, en bas de la descente de la côte de la Roche aux Faucons. Julien Alaphilippe portera pour la première fois son maillot de champion du monde à l'occasion de Liège-Bastogne-Liège, puisqu'il ne s'est pas aligné sur la Flèche Wallonne pour récupérer un petit peu de toute l'émotion de la fête après son sacre. Est-ce que Julien Alaphilippe peut remporter la doyenne cette année?
Ah, théorique, sur le papier, oui, il peut gagner. Après, est-ce qu'il va gagner? Je pense pas.
Pourquoi?
Je pense que on va avoir une course, je vais pas dire plus débridée, mais je pense que on a une saison particulière et on a des équipes qui vont arriver pas aussi fortes que d'habitude, dans le sens où des coureurs sont en préparation pour le Giro, d'autres sont pas forcément là. La sortie de Tour de France, ça va jouer, même si ça commence à faire. Je pense qu'on va avoir Alaphilippe, je sais pas, est-ce que c'est, j'ai pas envie de dire la malédiction du champion du monde, mais il sera plus marqué que d'habitude. Et je pense que sur ce parcours, on n'aura pas un profil, on n'aura pas un scénario de course similaire à celui qu'on a vu l'an dernier avec Fuglsang et le favori qui part dans la dernière montée. Je pense qu'on se retrouvera avec un groupe. Je suis pas sûr que quelqu'un soit capable de partir tout seul. Donc soit un groupe partir dans la dernière montée, soit partira un peu avant. Mais je pense qu'on aura une course assez ouverte en termes de scénario et que ça va être difficile de contrôler le final.
Même avant, je pense que ça va être difficile de contrôler et il risque d'y avoir de l'élimination assez précoce parce que ça va être un Liège-Bastogne-Liège qui va se courir presque entièrement sous la pluie. A priori, toute la journée, il va faire entre 10 et 13, 14 degrés, il y aura beaucoup de vent. Les coureurs vont s'user avec un vent assez fort qui sera de face puis de trois quarts face dans toute la première moitié. Il y aura vraiment beaucoup d'usure qui va jouer. On est quand même en octobre, alors c'est pas vraiment tard cette année, mais c'est quand même un petit peu tard. Peut-être compliqué de vraiment imaginer des scénarios de course, effectivement, avec
J'avais
je veux
pas
dire
pensé, j'avais pas pris en compte l'aspect météo, mais
ben,
c'est vrai qu'Alaphilippe
la
n'aime pas
pluie dans la
vraiment
descente de
ça.
Stoke,
Et
la pluie dans Ouane et Stoke, ça peut faire très mal, quoi.
je
Ça peut
pense
faire des
que,
dégâts, ouais.
enfin, la pluie et le froid éliminent pour moi, même si, bon, maintenant il a plus de mal d'office Valverde, qui n'a jamais vraiment brillé sous ces temps-là, et Alaphilippe, qui, sur les deux Liège-Bastogne, Liège pluvieux, qu'il a connu depuis qu'il s'est montré favori, ça doit être 2017, l'année où Woodpulse gagne.
C'était 2016, 2016 où Woodpulse
2016,
gagne.
ouais, il avait été distancé sous la pluie.
En tout cas, c'est vrai qu'Alaphilippe, c'est pas un coureur qui est spécialement à son avantage dans des conditions difficiles, sous la pluie, le froid. On avait pu voir l'année dernière sur les mondiaux, c'est un exemple qui était assez marquant. Donc
Oui, voilà, c'était quoi.
ça peut être un élément qui peut jouer contre lui aussi pour une belle perf
Et comme sur les mondiaux, on pourrait avoir un coureur supposé moins fort, mais qui justement profiterait de ce mauvais temps. Ça peut pourquoi pas être Woodpool si c'est bien remis de son Tour de France, mais pourquoi pas un coureur aussi comme Tim Wellens, qui on sait ne supporte pas le soleil, mais par contre qui dès qu'il pleut et qu'il fait un temps beaucoup plus, on va dire, automnal, se régale.
En tout cas, du coup, si on regarde les coureurs qui peuvent remporter Liège-Bastogne-Liège, on a quand même une liste qui peut être assez ouverte, un petit peu dans le même état d'esprit qu'on a eu ce week-end avec les championnats du monde, puisqu'on a donc Julien Alaphilippe, on a Tim Wellens, on peut rajouter Philippe Gilbert chez Lotto, on a Tadej Pogacar qui peut continuer, on a Maximilian Schachmann qui revient, qui n'était pas sur la flèche. Mercredi, Alejandro Valverde, sait-on jamais, Michał Kwiatkowski, Greg Van Avermaet, Mark Hirschi également.
Ah, Tige Binot, peut-être.
Voilà, donc on a une liste de favoris
Benoît
qui est
Cosnefroy.
Benoît Cosnefroy également.
Ah, et
Pourquoi
puis
pas?
il y a la Jumbo aussi qui a une grosse équipe.
Donc voilà, je pense qu'on n'a pas fini de lister les coureurs qui ont leur chance. Ça va être une course assez
Ah
ouverte.
oui, non. Et puis le nouveau final fait que les autres années, c'était comme la flèche, c'était beaucoup plus verrouillé. Là, c'est vraiment propice à. Même les coureurs moins forts en bosse peuvent se dire qu'ils n'ont qu'à s'accrocher sur la dernière. Et espérer régler un petit groupe au sprint. Donc, enfin, c'est une. Là, on a vraiment une
Ah,
classique propice à beaucoup de coureurs.
mais encore une fois, il faudra vraiment être costaud parce que ça va s'éliminer tôt. Hein. J'évoquais 11 à 15 degrés tout à l'heure, j'ai refait un petit tour rapide. Je regardais quand ils seront vraiment sur les hauteurs de l'Ardenne au niveau de Bastogne, ça sera plus 6-7 degrés. Donc il y a vraiment beaucoup d'organismes qui vont souffrir.
Je pense que ça va être une course pour classic man pur, plus
Ouais.
que pour puncher grimpeur, parce que dans le sens où ouais, ça va falloir être costaud.
Les Ardennaises, donc, on l'a dit, Liège-Bastogne-Liège, sur laquelle Julien Alaphilippe va courir pour la première fois avec le maillot arc-en-ciel, un maillot arc-en-ciel qu'il a décroché de brillante manière dimanche dernier sur le circuit d'Imola en Italie. Une très belle victoire pour laquelle on est pas mal à avoir vibré. Ça faisait 23 ans que la France n'avait pas connu de champion du monde. Le dernier en date, c'était Laurent Brochard à Saint-Sébastien en 1997. Petite question, on va pas forcément revenir sur le déroulé de la course, mais comment est-ce qu'on pourrait définir cette victoire de Julien Alaphilippe? Est-ce que c'est la tactique parfaite qui a été mise en place par Thomas Vauclair, ou alors est-ce que c'était tout simplement le plus fort? Est-ce que c'est situation de course qui a fait que ça a souri à Julien Alaphilippe, hein? Comment est-ce qu'on pourrait résumer cela?
Bah, bon, l'équipe de France, ouais, la stratégie qu'ils ont fait, ça a été parfait. Ils ont bien été aidés aussi par un Van Aert qui, je sais pas, m'a paru un peu paniqué parce que par moments il demandait aux autres de rouler. C'était lui clairement le plus fort du groupe, mais il voulait que les autres fassent aussi des choses. Mais il les attaquait. J'ai l'impression qu'il savait pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et le terrain où le groupe de chasse était jamais loin d'Alaphilippe, mais il le voyait jamais. Ça a joué en sa faveur. Mais Enfin, il était le plus fort, il a attaqué au bon moment. L'équipe de France a bien géré, se mettre en route tôt, après bluffer un petit peu. J'aurais quand même juste, par rapport au fait qu'on monte, on dit que ça remonte à 23 ans. Il y a 6 ans, je m'étais quand même levé de ma chaise quand Pauline Ferrand-Prévot avait gagné le sprint à Ponferrada.
Tu fais bien de le préciser.
À pas oublier quand même, même si voilà quoi, ça, pour les hommes, ça faisait très longtemps. Hein, on est passé par des podiums de Jean-Cyril Robin et d'Anthony Gélin. C'était des performances qu'on jugeait exceptionnelles de voir des mecs être sur un podium. Un Français avec le maillot arc-en-ciel dans le peloton masculin, ça va faire du bien.
Anselme, un petit mot sur la course de Julien Alaphilippe dimanche.
Bah, je ne sais pas si la tactique était parfaite dans le sens où il a profité du travail de Guillaume Martin qui lui était très très bon. Le titre est, enfin, il est beaucoup pour beaucoup dans le titre d'Alaphilippe, notamment en ramenant le peloton sur un gros groupe qui était sorti à l'amorce. Je ne sais plus si c'est de l'avant-dernier tour ou du dernier tour, mais c'est là vraiment qu'il vient. Il permet à Alaphilippe de rester dans la course pour la gagne. Et à partir de là, Alaphilippe n'avait plus qu'à suivre sur les coups et il a crucifié au bon moment. C'était le meilleur puncher du groupe. Je pense que des gars comme Fuglsang derrière avaient, dans le sens, dans les jambes, le niveau pour suivre l'allure à laquelle il allait. Mais c'est des coureurs qui n'ont pas le jump pour faire, enfin, pour faire l'écart comme le fait Julien. Et dès lors où le trou a été fait, on a vu que derrière c'était trop compliqué. Même si c'était des bons rouleurs, on a vu qu'un Roglic n'a quasiment pas pris de relais. Van Aert, comme le dit Geoffrey, s'est un peu retenu. Fuglsang a passé quelques relais, mais bon, il savait aligner au sprint. Donc derrière, on avait. Pour moi, en fait, c'est le moment de l'attaque. Julien était probablement le plus fort. Il a aussi profité du fait que la saison soit de cette façon et où les mecs qui sortaient du Tour de France avaient un avantage sur ceux qui préparaient le Tour d'Italie comme ça pouvait l'être sur Fuglsang. Donc pour la tactique parfaite, on a vu les Français faire accélérer assez tôt avec Quentin Paché notamment. Est-ce que ça fait la différence? Je sais pas si Vauclair a dit que c'était dans le but de faire croire aux autres qu'ils avaient mis en place trop tôt leur stratégie, qu'ils avaient lancé la fusée trop tôt. Est-ce que les autres équipes sont tombées dans le panneau? Je sais pas. On a vu que l'équipe d'Italie était quand même restée très longtemps ensemble, mais qu'en fait, au final, tout s'est joué dans le dernier mur. Alors peut-être, sans l'accélération française, il y aurait eu plus d'équipiers, peut-être notamment pour la Belgique, mais même avec des équipiers, là où ça s'est joué, les pourcentages sont tels que je pense qu'ils auraient fini par sauter, et même avec des équipiers qui reviennent derrière, je ne pense pas qu'ils auraient pu revenir. Enfin, ça aurait nécessité que ça s'arrête vraiment derrière Alaphilippe. Donc pour moi, ouais, la tactique en soi, enfin, j'ai pas vu un gros coup tactique, comme des fois on peut voir des équipes jouer à qui tout double. Mais par contre, on a vu un Julien Alaphilippe le plus fort. Il a su se débarrasser de Van Aert et des mecs comme Hirschi qui, sur un sprint en petit comité, sont toujours pénibles. Et donc, là-dessus, il n'y a rien à dire.
Maintenant, pour finir ce podcast, on va vous présenter un jeune coureur. Il y a quelques podcasts avant le Tour de France, on vous avait parlé, on vous avait présenté Juan Ayuso, un Espagnol qui aura 19 ans en fin d'année et qui a signé un contrat professionnel chez UAE Emirates à partir de 2022. Mais au cours de cette année 2020, il n'a pas été le seul junior à signer chez les professionnels, puisque en juin, Sunweb a annoncé la signature de Marco Brenner, qui a lui aussi 18 ans en fin d'année. Mais pour le coup, l'Allemand passera lui professionnel dès 2021, dès janvier 2021, donc sans passer par la case espoir. En même temps, il faut dire que Marco Brenner impressionne et il pourrait bien être la nouvelle pépite du cyclisme allemand. Alors, qui est ce Marco Brenner? Axel, notre spécialiste du cyclisme allemand sur le groupe Eto, nous le présente.
Avant même de passer junior l'an dernier, Marco Brenner suscitait déjà de fortes attentes, tant il avait cumulé les victoires dans les catégories jeunes en Allemagne, mais aussi au-delà. Nulle surprise ainsi à voir la Bora Hansgrohe le prendre dans son équipe junior, la team Auto-Oeter Bayern, pour son développement dans les rangs juniors. Toute la question était de savoir s'il serait en mesure de montrer l'étendue de son talent dès sa première année chez les juniors. On sait en effet qu'il n'est jamais facile pour un junior de performer dès sa première année dans la catégorie, tant les mois de différence et l'expérience accumulée ne manquent pas de se faire ressentir. C'est en théorie d'autant plus dur pour un coureur né plus tard dans l'année puisque l'écart d'âge et donc de développement physique augmente d'autant. Or c'est ainsi le cas d'un Brenner puisque celui-ci est né fin août, ce qui l'amenait à avoir par exemple plutôt près d'un an et demi d'écart avec ses concurrents qu'un an. Et dans cette tranche de l'âge d'âge, c'est extrêmement important. Mais cela n'a pas pour autant semblé déranger Brenner outre mesure puisqu'il se sera placé dès sa première saison chez les juniors comme l'un des tout meilleurs au monde. Il aura ainsi écrasé le circuit national allemand, alors même que la génération 2001 était particulièrement brillante en Allemagne avec des Ballerstedt, des Essmann, des Wilk, Steinhauser, Lürs, qui tous faisaient partie l'an dernier du gratin mondial chez les juniors. Brenner a ainsi remporté par exemple 5 des 6 manches qu'il a disputées en Coupe d'Allemagne, la remportant bien évidemment celle-ci, faisant un doublé chrono course en ligne aux championnats nationaux. Aussi brillant la génération 2001 est-elle, elle n'a pu que s'avouer vaincue par son cadet Marco Brenner. Non content de terroriser la scène allemande, Brenner s'est également très vite installé dans le top mondial, immédiatement rivalisé avec les tout meilleurs sur les courses pourtant bien particulières comme Gent-Wevelgem ou Paris-Roubaix dès le début de la saison. Directement 5e sur la prestigieuse course de la paix, ses débuts internationaux ont tout de suite donné le ton. Mieux que de juste se montrer pour sa première année chez les juniors, il aura fait étalage de tout son talent. Outre sa capacité à obtenir des résultats, à peser sur les courses, c'est aussi et surtout sa régularité impressionnante qui renforce l'idée qu'on a affaire à un talent rare. Il aura ainsi performé de bout en bout de la saison, ne passant jamais à travers d'une course. Plus une course est sélective, plus cela convient à Brenner. Pavé, vent, bosse, chrono, montagne, tout ce qui est dur lui va. Naturellement, une telle saison qui l'a mis directement au top mondial ne pouvait que renforcer les attentes qui existaient déjà autour de lui et susciter la convoitise. Très tôt, dès l'an dernier, les grandes manœuvres autour de Brenner ont été lancées. L'intérêt des World Equipe World Tour était très fort et très précoce. Il faut bien voir que Bora et Sunweb, qui étaient les deux favorites pour attirer Brenner, étaient déjà là à le convoiter tout au long de la saison dernière et même avant même celle-ci. Autre fait notable, avant même la moitié de la saison dernière, Brenner avait signé pour que l'agence Corso, qui a par exemple un Mats Petersen dans ses rangs, le représente. Voir un junior, après seulement quelques mois dans la catégorie, être courtisé par des équipes World Tour et être représenté par une des principales agences de cyclistes pro, cela indique tout de suite l'estime dans laquelle le jeune Allemand est tenu et les attentes très fortes qui sont placées en lui. Marco Brenner est du genre à aller vite, il n'est pas là pour traîner en route. Il faut avoir conscience qu'enfant, il disait qu'il voulait être coureur plus tard, enfin plutôt qu'il serait coureur pro. À même pas 18 ans, il a déjà atteint cet objectif qui était quelque part une sorte de promesse. Jusqu'à présent, il n'a jamais déçu. Donc dès lors, on peut considérer qu'il sera à même de continuer sur cette voie à l'avenir. S'il a signé en World Tour au sein de la Sunweb, c'est que lui-même se fait confiance pour être, pour répondre présent dès le début de l'année prochaine à un niveau World Tour. On verra s'il arrivera, mais sa polyvalence, son talent, sa détermination le laissent indéniablement augurer d'un bel avenir. Lui qui veut gagner le Giro, sa course favorite, on peut se comprendre du fait de son lien personnel très fort avec l'Italie, le pays de sa mère, et le Tour de France, il ne se fixe en tout cas aucune limite à l'étendue de ses rêves. Les réalisera-t-il? Cela, seul l'avenir nous le dira. Mais quoi qu'il en soit, Marco Brenner est définitivement un coureur à garder à l'esprit par rapport à la saison prochaine.
Marco Brenner, comme on a pu le voir, c'est un coureur qui est extrêmement talentueux, extrêmement performant chez les jeunes, mais qui en veut toujours plus. D'ailleurs, on peut le voir, cette année, il a obtenu à nouveau de très très grandes performances, comme l'a évoqué Axel, avec seulement, entre guillemets, une victoire, c'est-à-dire le contre-la-montre du Grand Prix Rubliland, qui est donc sa seule victoire internationale cette saison. Et pour lui, ce n'est pas assez, il en veut toujours plus. À présent, on arrive à la fin de ce podcast, un podcast où on a pas mal parlé du Tour d'Italie, des Ardennaises. Merci de nous avoir écoutés tout au long de ce podcast. Merci également à Anselme et Geoffrey qui étaient avec moi aujourd'hui. Merci à vous les gars.
Bah, c'était un plaisir.
Merci.
Comme toujours.
Un plaisir aussi.
Et on se retrouve d'ici une dizaine de jours pour le prochain épisode de Chasse Patate après Liège-Bastogne-Liège, après la première semaine du Tour d'Italie, mais pas après l'Amstel Gold Race qui est annulé pour des raisons sanitaires mises en place par le gouvernement néerlandais, donc les Ardennaises qui se tiendront seulement sur cette semaine avec la Flèche Wallonne qui a déjà eu lieu mercredi et Liège-Bastogne-Liège qui aura lieu dimanche. En attendant donc ce prochain épisode de Chasse Patate, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Et on vous dit à bientôt dans Chasse Patate.